Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
On se pose parfois une question qui semble presque naïve. Comment sait-on que la Terre est ronde ? C'est une question étonnante parce que beaucoup répondent spontanément « bah, on l'a vu, on a des photos ». Cette réponse est compréhensible. Les images de la Terre vues de l'espace ont marqué les esprits. Elles sont devenues emblématiques, presque fondatrices de notre vision moderne du monde. Mais si on pose la question autrement, comment le savait-on avant les satellites, avant les avions, avant même les télescopes? La réponse devient immédiatement plus intéressante et surtout plus instructive. Car la vérité est la suivante. La Terre est ronde, non pas parce qu'on l'a vue, mais parce qu'on l'a mesurée. Et c'est ce glissement de la vision à la mesure, de l'image au raisonnement, que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. À l'œil nu, la Terre ne paraît pas ronde, elle paraît plate, et ce n'est pas une illusion, au sens courant du terme. À notre échelle, la Terre est effectivement presque plate. Son rayon est d'environ 6400 km, une distance gigantesque comparée à nos déplacements quotidiens. Sur quelques kilomètres, ou même quelques dizaines de kilomètres, la courbure est imperceptible. C'est un point fondamental et souvent mal compris. La rotondité de la Terre est trop faible pour être vue directement. Aucune promenade, aucun paysage, aucun horizon familier ne permet de la percevoir à l'œil nu. Et c'est précisément pour cela que l'argument « je ne vois pas la courbure » n'a aucune valeur scientifique. La science ne repose pas sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on peut mesurer, comparer, vérifier, reproduire. Elle accepte que certaines propriétés du monde soient réelles, sans pour autant être immédiatement visibles. Contrairement à une idée très répandue, les anciens savaient que la Terre est ronde. Dès l'Antiquité grecque, cette idée était discutée, argumentée, enseignée. Elle ne relevait pas d'une intuition vague, mais d'un savoir structuré, transmis et débattu. Pas sur la base d'images, bien sûr, mais sur la base de raisonnements géométriques appuyés sur l'observation. Par exemple, on invoque souvent les éclipses de Lune. Lors de ces éclipses, l'ombre de la Terre projetée sur la Lune est toujours circulaire. C'est un argument suggestif, mais il faut être précis. Ce n'est pas à lui seul une démonstration rigoureuse. La projection d'un objet peut être circulaire, sans pour autant que l'objet soit sphérique. Un disque, par exemple, projette aussi une ombre circulaire. En revanche, si un même objet projette une ombre circulaire dans toutes les directions, la situation devient plus contraignante. On peut alors soupçonner une forme sphérique. Encore faut-il le démontrer soigneusement. Cet exemple illustre bien un point essentiel. En science, les arguments isolés suggèrent, mais ce sont les faisceaux d'arguments qui convainquent. On peut citer d'autres observations du même ordre. Quand on se déplace vers le nord ou vers le sud, les étoiles visibles changent. Certaines étoiles montent ou descendent dans le ciel, suivant la latitude. Ces phénomènes sont difficiles à expliquer sur une surface plate. Ils racontent tous la même histoire. La surface sur laquelle nous vivons n'est pas plane, elle est courbe. Un argument populaire consiste aussi à dire que lorsqu'un bateau s'éloigne à l'horizon, on peut voir disparaître la coque avant le mât. Là encore, l'idée est parlante, mais elle demande à être maniée avec prudence. Les effets d'optique, la réfraction atmosphérique, les conditions de visibilité peuvent brouiller l'interprétation. Pris isolément, cet argument n'est pas décisif. Pris en contexte, il ajoute un ensemble cohérent d'observations. L'exemple le plus célèbre reste celui d'Ératosthène. Au IIIe siècle avant notre ère, il remarque qu'à Sienne, en Égypte, le soleil est exactement au zénith, un jour précis de l'année, alors qu'au même moment, à Alexandrie, un bâton projette une ombre. Il mesure l'angle de cette ombre, il connaît même approximativement la distance entre les deux villes, il en déduit la circonférence de la Terre. Ce qui est remarquable, ce n'est pas tant la précision du résultat, pourtant étonnante, que la simplicité du raisonnement. Ératosthène n'est pas monté dans l'espace. Il n'a pas vu la Terre de l'extérieur. Il a raisonné avec un angle, une distance et un peu de géométrie. Il existe un autre indice, plus délicat, est très instructif. L'horizon. Quand on se place en hauteur sur une falaise, une montagne ou même dans un avion, l'horizon n'est pas exactement à la hauteur de l'œil. Il est légèrement en dessous. Cette différence est minuscule. Et c'est justement pour cela qu'elle est intéressante. À 100 mètres d'altitude, l'horizon est abaissé d'environ 0,3 degrés. À 1000 mètres, d'environ 1 degré. À 10 000 mètres, d'environ 3 degrés. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit clairement, comme une image nette. Mais c'est quelque chose que l'on peut mesurer avec un instrument simple et répéter. Là encore, le message est le même. La Terre ne se révèle pas comme une image, mais comme un écart mesuré. On entend parfois aussi un autre argument tout aussi trompeur. La Terre est ronde parce que Magellan en a fait le tour. Pris au pied de la lettre, cet argument n'a pas beaucoup de sens. Faire le tour d'un objet ne suffit pas à en déterminer la forme globale. On peut tourner en rond sur une surface plate. Ce voyage montre l'existence d'une continuité et pas la sphéricité. On demande parfois « Et si la Terre était plate avec un modèle compliqué ?» Cette question mérite d'être prise au sérieux et elle permet de comprendre ce qu'est un bon modèle scientifique. C'est là qu'intervient un critère fondamental de la science, la cohérence globale. Un modèle scientifique doit expliquer tous les phénomènes à la fois sans multiplier les hypothèses artificielles ajoutées au cas par cas. On pourrait aller plus loin, la sphère n'est peut-être pas a priori la seule forme imaginable. On pourrait imaginer une Terre en forme de tore ou de beignet, mais ces formes alternatives échouent dès que l'on cherche à expliquer simultanément les éclipses, les variations de latitude, la gravité, la géodésie, la navigation et aujourd'hui le fonctionnement du GPS. La Terre sphérique explique naturellement les éclipses, les fuseaux horaires, les saisons inversées entre les hémisphères, la gravité, la géodésie, la navigation. Les modèles concurrents expliquent parfois un phénomène isolé au prix d'hypothèses incompatibles entre elles. Ce n'est pas une question d'opinion ni de croyance, c'est une question de fonctionnement du raisonnement scientifique. La question « comment sait-on que la Terre est ronde ?» est en réalité une question plus profonde. Elle nous demande « comment distingue-t-on ce que l'on voit de ce que l'on sait ? Comment construit-on une certitude scientifique ? À quoi reconnaît-on une bonne explication ?» La réponse tient en une phrase. La Terre est ronde ? Parce que c'est la seule forme qui permet au monde de fonctionner comme il fonctionne. Nous vivons dans une planète que la plupart d'entre nous ne verront jamais dans sa totalité, et pourtant, nous la connaissons remarquablement bien, non pas parce que nous l'avons regardée, mais parce que depuis plus de 2000 ans, des femmes et des hommes ont appris à mesurer, comparer, douter et corriger. La Terre est ronde, mais surtout, la science est patiente. Vous avez écouté « O vis eternitatis » de Hildegard de Bingen. Ô force de l'éternité, toi qui as ordonné toutes choses selon ta voix, toi qui as entouré le ciel et la terre de ta sollicitude. Hildegard, 1098-1179, est une figure singulière du Moyen-Âge, abbesse, compositrice, visionnaire, mais aussi observatrice attentive de la nature. Pour elle, l'univers apparaît comme un tout ordonné et vivant, animé par une force qu'elle appelle vis, une énergie de vie qui traverse le ciel, la terre et les êtres. Chez Hildegard, la terre n'est pas pensée comme un objet isolé, mais comme une partie intégrante d'un cosmos harmonieux. La forme du monde n'y est pas d'abord une question de géométrie, mais d'ordre et de relation à un monde tenu ensemble, sans rupture.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Les podcasts de l'Institut de France.